La Mustang roulait sur Ridge Road à plus de 100 à l'heure, précédée du faisceau de ses phares sous la lumière d'une lune ronde et polie. De chaque côté, les arbres massés jusqu'au bord de la chaussée dansaient et se tordaient dans le vent. George Staub me sourit de ses yeux vides, puis il lâcha ma main et reporta son attention sur la route. J'avais lu Dracula quelques années auparavant, et une phrase du roman me revint à l'esprit, où elle résonna comme une cloche fêlée. « Les morts conduisent vite. Faut pas qu'ils sachent que je sais. » Cet avertissement résonnait aussi dans ma tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qui me restait. Faut pas qu'ils sachent, faut pas qu'ils... Je me demandais où était à présent le vieux monsieur. Bien tranquille chez son frère? Ou bien avait-il été dans le coup dès le début? Qui sait s'il n'était pas juste derrière nous, dans sa vieille Dodge, penché sur le volant et tirant comme un malade sur son bandage arrière? Était-il mort, lui aussi? Probablement pas. Les morts conduisent vite, à en croire Bram Stoker, et le vieillard n'avait jamais dépassé le 70 à l'heure. Je sentis un ricanement dément se préparer au fond de ma gorge, et je dus faire un effort pour le contenir. Si jamais je riais, l'autre allait savoir, et il ne fallait pas qu'il sache, vu que c'était mon seul espoir.
« Rien ne vaut des épousailles, » observa-t-il.
« Ouais, tout le monde devrait se marier deux fois. » Mes mains s'étaient croisées et s'étreignaient. Je sentais mes ongles s'enfoncer dans ma chair, juste au-dessus des articulations. Mais la sensation restait lointaine, comme une information venue d'ailleurs. Pas question qu'il devine quoi que ce soit, c'était ça l'important. Nous étions entourés de bois. La seule lumière était celle qui tombait glacée de la lune insensible. Et il ne fallait pas qu'il sache que je savais qu'il était mort. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme, de quelque chose d'aussi inoffensif qu'un spectre. On peut à la rigueur voir un fantôme, mais comment appelle-t-on un truc qui conduit une voiture et vous propose de vous emmener? À quel genre de créature avais-je affaire? À un zombie, à une goule? À un vampire? À autre chose? George Staub éclata de rire. « Se marier deux fois, ouais vieux, c'est toute l'histoire de ma famille !» « Et de la mienne, » dis-je. Ma voix était calme, la voix d'un autostoppeur qui, en guise de paiement et pour passer le temps agréablement, faisait la conversation à son chauffeur. « Rien ne vaut des funérailles. »« Des épousailles, » me corrigea-t-il doucement. Dans la lumière qui émanait du tableau de bord, il avait un teint cireux, la tête d'un cadavre avant qu'il ne soit maquillé. La casquette à l'envers était particulièrement horrible. On se demandait ce qui pouvait bien rester en dessous. J'avais lu quelque part que les thanatopracteurs sciaient le sommet du crâne et remplaçaient la cervelle par une sorte de coton traité chimiquement, peut-être pour éviter au visage de se rétracter. « Des épousailles !» dis-je, les lèvres engourdies. Je réussis même à rire un petit pouffement. « Les épousailles ! Voilà ce que je voulais dire. » « On dit toujours ce que l'on veut dire. Voilà ce que je pense. » Le conducteur de la Mustang souriait toujours. « Oui. » C'était aussi ce que Freud avait pensé, comme je l'avais lu dans le cours d'intro à la psycho. Je n'avais pas l'impression que ce type devait en savoir long sur Freud, et je voyais mal nos doctes freudiens se baladant en t-shirt à manches coupées et casquette de baseball tournée à l'envers. Mais il en savait assez. Des funérailles, voilà ce que j'avais dit. Bonté divine, j'avais dit funérailles. Il me vint à l'esprit qu'il se jouait de moi. Il avait employé le terme désuet épousaille pour me pousser à la faute. Je ne voulais pas qu'il sache que je le savais mort. Lui ne voulait pas que je comprenne qu'il savait que je le savais. Et du coup, je ne pouvais lui laisser savoir que je savais qu'il savait que je savais. Le monde se mit à vaciller autour de moi. Il allait se mettre à tourner, puis à tourbillonner, et je serais perdu. Je fermai les yeux quelques instants. Dans l'obscurité, l'image résiduelle de la lune persista, devenue verte. Hé, vieux, tu te sens pas bien ? Il y avait quelque chose d'horrible dans l'inquiétude qu'il manifestait. Si. J'ouvris les yeux. Les choses avaient repris leur place normale. À l'endroit où mes ongles s'incrustaient dans la peau de mes mains, j'éprouvais une douleur forte et bien réelle. Et les odeurs. Pas simplement celle de la résine artificielle, pas seulement celle du formol. Mais une odeur de terre aussi. T'es sûr ?
Juste un peu fatigué. Fait un moment que je roule en stop. Des fois, j'ai un peu le mal de la route.
L'inspiration me frappa soudain. Tu sais quoi ?
Il vaudrait mieux me laisser descendre. Avec un peu d'air frais, mon mal au cœur va se calmer. Quelqu'un d'autre finira bien par passer. Impossible, dit-il. Te laisser ici? Pas question. Si ça se trouve, personne ne passera avant une heure ou deux, et rien ne prouve qu'on te prendra. Je dois m'occuper de toi. C'est comment cette chanson déjà? Amène-moi à l'heure à l'église, un truc comme ça, non? Pas question que je te laisse ici. Tu n'as qu'à entrouvrir la fenêtre, ça te fera du bien. Je sais que ça ne sent pas très bon là-dedans. J'ai mis ce désodorisant, mais c'est de la merde ces trucs-là. Évidemment, certaines odeurs sont plus difficiles à faire disparaître que d'autres. Je voulais porter la main jusqu'à la poignée commandant la vitre et la tourner pour laisser pénétrer l'air frais, mais les muscles de mes bras paraissaient incapables de se contracter. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester assis, les mains croisées, mes ongles s'enfonçant dans ma chair. J'avais une série de muscles qui refusaient de travailler et une autre qui ne voulait plus s'arrêter. La bonne blague. C'est comme dans cette histoire, reprit-il, celle sur le petit jeune qui achète une Cadillac pratiquement neuve pour 750 $. Tu la connais? Ouais, grognai-je entre des lèvres toujours aussi engourdies. En fait, je ne la connaissais pas, mais je savais parfaitement bien, en revanche, que je n'avais aucune envie de la connaître, que je n'avais aucune envie de l'entendre raconter la moindre histoire. Elle est connue. Devant nous, la chaussée fuyait comme une route dans un vieux film en noir et blanc. « Et comment qu'elle est connue? Archi connue même !»« Bon, le gosse regarde la voiture et se rend compte que c'est une Cadillac, dernier modèle, presque neuve, devant la maison du type. J'ai dit que « Ouais !» et il y a un panneau où il y a écrit « À vendre » posé dessus. Il avait une cigarette coincée derrière l'oreille. Il leva la main pour la prendre et son t-shirt, à ce moment-là, se mit à bâiller. J'aperçus une deuxième ligne noire ponctuée de marques et de points de suture. Puis il se pencha pour enfoncer l'allume-cigare et le t-shirt se remit en place. Le petit jeune sait très bien qu'il n'a pas les moyens de se payer une Cadillac, que les Cadillacs sont un rêve pour lui. Mais il est curieux, tu comprends? Alors, il va voir le type qui est justement en train de la laver et il lui demande combien il en veut. Et le type coupe l'eau de son tuyau et il lui répond « Eh mon gars, c'est ton jour de chance aujourd'hui, 750 $, et elle est à toi !» L'allume-cigare ressortit. Stubb le prit et appuya son extrémité rougeoyante contre sa cigarette. Puis il inhala. Et je vis de minuscules volutes de fumée sortir par les poings qui retenaient la peau recousue de son cou. Alors le gosse regarde par la vitre et constate qu'elle a seulement 25 000 km au compteur. Et il dit au type « Ouais, elle est bien bonne celle-là, aussi marrante qu'une moustiquaire sur un sous-marin. » Et le type lui répond « C'est pas une blague, jeune homme, à boule le fric, elle est à toi. » « Je veux même bien prendre un chèque si tu préfères. T'as l'air honnête. » Et le gosse dit... Je regardais par la fenêtre. Je l'avais déjà entendu, cette histoire, en fait. Des années auparavant, quand j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Dans la version que je connaissais, la voiture était une Thunderbird. Mais sinon, tout était pareil. Le petit jeune répondait « Je n'ai peut-être que 17 ans, mais je ne suis pas idiot. Personne n'irait vendre une voiture pareille, avec en plus aussi peu de kilomètres au compteur pour seulement 750 $. » Alors le type lui avoue que c'est à cause de l'odeur, qu'il n'arrive pas à se débarrasser de l'odeur, qu'il a essayé, tout essayé, mais que rien n'est arrivé à la faire disparaître. Qu'il était parti en voyage d'affaires, un assez long voyage d'affaires, parti pour 15 jours, était en train de dire Stubb. Il souriait, à la manière des types qui pensent qu'ils en racontent une bien bonne. Et que quand il est revenu, il avait retrouvé sa voiture dans le garage avec sa femme dedans, morte, pratiquement depuis le jour de son départ. On ne savait pas si c'était un suicide ou une crise cardiaque ou autre chose, mais elle était toute gonflée et la voiture avait gardé l'odeur. Et tout ce qu'il demandait, c'était à la vendre. Il se mit à rire. Sacrée histoire, non? Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé chez lui? Ma bouche qui parlait toute seule. J'avais les neurones pétrifiés. Il part 2 semaines en voyage d'affaires et il n'appelle pas une seule fois sa femme pour savoir comment elle va? Oh, de toute façon, ce n'est pas la question. La question, c'est la bonne affaire, non? Comment ne pas être tenté? Après tout, on peut toujours conduire cette foutue bagnole les vitres ouvertes, pas vrai? Et en fin de compte, c'est juste une histoire, inventée. J'y ai pensé à cause de l'odeur dans cette voiture. Une odeur bien réelle. Gros silence. Et je pense, en mon fort intérieur, Il attend que je dise quelque chose. Il attend que je mette un terme à cette mascarade. Et c'était bien ce que j'avais envie de faire, vraiment. Sauf que... Et ensuite ? Qu'allait-il faire ensuite ? Il frotta son pins du gras du pouce, celui qui proclamait « Je suis monté dans le bolide à la foire de Laconia ». Je vis qu'il avait de la terre sous les ongles. « J'étais là-bas aujourd'hui, à Thrill Village, la foire aux attractions. J'ai fait un boulot pour un type et il m'a offert le pass pour la journée. Ma petite amie devait venir avec moi, mais elle m'a appelé et m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a des règles, des fois, ça la rend malade, comme un chien. C'est embêtant. Mais qu'est-ce que tu veux ? Pas de règles, et c'est les emmerdes qui commencent pour tous les deux. » Il poussa un petit jappement, un faux rire dépourvu d'humour. « Alors j'y suis allé tout seul. C'était idiot de gaspiller un pass d'une journée. T'as jamais été à Thrill Village ?»«
Si, une fois. Quand j'avais 12 ans. »«
Avec qui ? Tu n'étais pas tout seul tout de même, pas à 12 ans. » Je lui avais déjà raconté ça.
« Non ?»
Il jouait avec moi, un point c'est tout, me faisant courir d'un côté et de l'autre. J'envisageais un instant d'ouvrir la portière et de me jeter dans la nuit, en me protégeant la tête avec les bras au moment de toucher le sol, mais je savais qu'il me rattraperait par le callback avant. Et, de toute façon, je n'étais même pas capable de lever les bras. Agripper mes mains l'une à l'autre, c'est tout ce que je parvenais à faire.
Non,
j'étais avec mon père, c'est lui qui m'a emmené.
T'es monté dans le bolide ?
Moi, j'en ai fait 4 tours de cette connerie.
Oula ! Tu te retrouves la tête en bas !
Il me regarda et laissa échapper un de ces jappements vides de sens. La lumière de la lune ondoyait dans ses yeux, les réduisant à 2 cercles blancs, comme ceux d'une statue. Et je compris que non seulement il était mort, mais aussi cinglé.
« T'es monté là-dessus, Alan ?»
Je pensais un instant lui dire qu'il se trompait de nom, que je m'appelais Hector. Mais à quoi bon ? Nous arrivions à la fin.
« Ouais, » murmurai-je.
À l'extérieur, pas une seule lumière en dehors de celle de la lune. Les arbres nous fonçaient dessus, se tordant comme les danseurs en transe qui viennent d'écouter un prédicateur particulièrement convaincant. La chaussée défilait à toute vitesse. Je jetai un coup d'œil au compteur. On roulait à 140. On était dans le bolide à présent. Lui et moi, on s'élançait dans la ligne droite de la mort.
Ouais, le bolide. J'y suis monté.
C'est pas vrai.
Il tira sur sa cigarette et, une fois de plus, je vis les microscopiques volutes de fumée sortir des points de suture autour de son cou.
T'es jamais monté là-dedans, et sûrement pas avec ton père. Tu as fait la queue, ça c'est exact. Mais avec ta mère, la queue était longue. Pour le bolide, elle est toujours longue. Et elle n'avait pas envie de poireauter longtemps au soleil à crever de chaud. Elle était déjà grosse, et elle n'aimait pas la chaleur. Mais tu l'avais tannée toute la journée, tannée jusqu'à plus soif. Et c'est là qu'est le gag, vieux. Quand ton tour est arrivé, tu t'es dégonflé, pas vrai ?
Je ne dis rien. J'avais la langue scotchée au palais. Sa main s'avança, une main à la peau jaunâtre à la lumière du tableau de bord, aux ongles crasseux, une main qui se posa sur les miennes, toujours soudées l'une à l'autre. La force qui les bloquait s'évanouit à cet instant-là, et elles retombèrent chacune de leur côté, tel un nœud qui se défait comme par enchantement, sur un coup de baguette magique. Sa peau était froide et évoquait celle d'un serpent.
« Pas vrai ?»
« Si, ma voix était à peine un murmure. Quand ça a été notre tour, et que j'ai vu combien c'était haut, que j'ai vu les cabines se retourner en arrivant là-haut et les gens qui criaient, je me suis dégonflé. Elle m'a collé une gifle et ne m'a pas adressé la parole sur tout le chemin du retour. Je ne suis jamais monté dans le bolide. Enfin, jusqu'à cet instant.
« T'aurais dû, vieux, t'aurais dû !» C'est l'attraction la plus sensationnelle, celle à ne pas manquer. Il n'y en a pas une qui la vaut, en tout cas à Thrill Village. Je me suis arrêté en chemin pour acheter de la bière dans le magasin près de la frontière. J'avais l'intention de passer chez ma petite amie pour lui donner le pins, histoire de blaguer.
Il tapota l'objet sur sa poitrine, baissa sa vitre et jeta sa cigarette dans la nuit venteuse.
« Mais je parie que tu te doutes de ce qui est arrivé. »
Évidemment que je m'en doutais. Le grand classique des histoires de fantômes. Il s'était fichu en l'air avec la Mustang, et quand les flics étaient arrivés, il n'avait retrouvé qu'un cadavre dans ce qui restait de la voiture, un corps décapité assis au volant. La tête était sur le siège arrière, avec la casquette à l'envers, ses yeux morts fixant le toit. Et depuis, on le voyait toujours parcourir Ridge Road par les nuits de pleine lune quand le vent soufflait fort. Ouh ! La suite après un spot publicitaire. Je sais maintenant quelque chose que j'ignorais alors. Les pires histoires sont celles que l'on a entendues toute sa vie. Celles-là sont les vrais cauchemars.
« Rien ne vaut des funérailles, » dit-il en riant.
« Ce n'est pas ce que tu as dit.
T'as glissé à ce moment-là, Al. Glissé, trébuché, et tu es tombé. »«
Laissez-moi descendre, » murmurai-je, « je vous en prie. »«
Eh bien, nous avons justement à parler de ça, » dit-il en se tournant vers moi, « n'est-ce pas ?»« Au fait, sais-tu qui je suis, Alan ?»«
Un fantôme. » Il eut un petit grognement d'impatience et je vis à la lueur du tableau de bord s'abaisser les commissures de ses lèvres.
« Allons, vieux, on peut faire mieux que ça. Ce con de Casper est un fantôme, lui. Est-ce que je flotte dans l'air par hasard? Est-ce qu'on voit à travers mon corps ?»
Il leva une de ses mains et l'ouvrit et la referma devant moi. J'entendis craquer ses tendons, comme s'il manquait de lubrifiant. Je voulus dire quelque chose. Quoi au juste, je ne sais plus, mais c'est sans importance, car aucun son ne franchit mes lèvres.
« Je suis une sorte de messager, » reprit Stubb. « La foutue FedEx d'outre-tombe. Ça te plaît pas? Les types comme moi se pointent en réalité assez souvent dans les parages, à chaque fois que les circonstances sont favorables. Tu veux que je te dise ce que j'en pense ?»
Sa question était purement rhétorique et il enchaîna.
« J'en pense que celui qui mène le bal, Dieu ou tu l'appelleras comme tu voudras, doit adorer s'amuser. » Il a toujours envie de vérifier si vous vous contentez de ce que vous avez ou si vous n'avez pas envie d'aller voir de l'autre côté du rideau. Mais cela ne peut se faire que dans des circonstances bien précises. Comme ce soir. Toi, tout seul dans la nature, ta mère malade, besoin d'un moyen de transport.
Si j'étais resté avec le vieux, rien de tout ceci ne serait arrivé, n'est-ce pas? Je sentais maintenant avec précision les effluves qui émanaient de Stubb. Odeur piquante de produits chimiques, mélangée à la puanteur grasse de chair en décomposition. Je me demandais comment j'avais pu ne pas les remarquer tout de suite, ou les confondre avec autre chose.
« Difficile à dire, » répondit Stubb. « Ton vieux était peut-être mort, lui aussi. »
Je repensais à la voix pleine d'éclats de verre du vieillard, au claquement de son bandage hernière. Non, il n'était pas mort. Et j'avais échangé l'odeur de pisse de la vieille Dodge contre quelque chose d'infiniment pire.
De toute façon, mon vieux, nous n'avons pas le temps de parler de ça. Dans moins de 10 kilomètres, on va commencer à voir les premières maisons. Dans moins de 15, on atteindra les limites de la ville, ce qui signifie qu'il faut que tu te décides tout de suite.
Que je décide quoi? Je posais la question, mais je crois que je connaissais la réponse.
Qui monte sur le bolide? « Et qui reste à terre? Toi ou ta mère ?»
Il se tourna et me regarda de ses yeux de noyé de la pleine lune. Il me sourit plus largement, et je vis qu'il avait perdu presque toutes ses dents, cassées pendant l'accident. Il tapota le volant.
« J'en emporte un des deux avec moi, vieux, et, comme c'est toi qui es ici, c'est toi qui choisis. Alors ?»
La phrase « Vous n'êtes pas sérieux » monta à mes lèvres, mais n'en sortit pas. À quoi aurait servi de la prononcer, ou de dire quoi que ce soit d'autre? Bien sûr qu'il était sérieux. Mortellement sérieux. Je pensais à toutes ces années passées ensemble. Alan et Jean Parker, contre le reste du monde. Beaucoup de bons moments, et plus d'un réellement mauvais. Mes pantalons rapiécés, les ragoûts à l'identification douteuse. La plupart des autres avaient de l'argent de poche pour s'offrir un déjeuner chaud. Moi, c'était un sandwich au beurre de cacahuète. Ou un morceau de saucisson à l'ail roulé dans du pain de la veille, comme les gosses dans ces histoires de pauvres devenus riches à faire pleurer dans les chaumières. C'est boulot, dans Dieu seul sait combien de restaurants et bars pour nous faire vivre. Le jour de congé qu'elle avait pris pour son entretien avec le type de l'aide sociale à l'enfance, elle avait mis son plus bel ensemble pantalon. Lui était là, assis dans le rocking chair de la cuisine en costard, un costard de bien meilleure qualité que l'ensemble de ma mère. Même un gosse de 9 ans pouvait s'en rendre compte. Un carnet de notes sur les genoux et un gros stylo brillant à la main. Et elle, répondant aux questions gênantes, insultantes, que le type posait avec un sourire vissé aux lèvres. Elle, lui offrant même un café, car s'il faisait un bon rapport, elle toucherait $50 de plus par mois, 50 malheureux billets. Allongée sur le lit, après le départ du type, elle avait pleuré, et lorsque j'étais venu m'asseoir près d'elle, elle avait essayé de sourire. Elle avait dit que l'ASE ne voulait pas dire aide sociale à l'enfance, mais abominable salaud d'enfoiré. J'avais ri, et elle avait ri aussi, parce qu'il valait mieux en rire, nous le savions bien. Quand on était juste soi et sa grosse mère accro à la nicotine, rire était la plupart du temps la seule manière de s'en sortir sans devenir fou à se taper la tête contre les murs. Sauf qu'il n'y avait pas que ça. Pour des gens comme nous, des trottes menus qui cavalent dans le monde comme des souris dans un dessin animé, rire de ces salopards était parfois la seule vengeance que l'on pouvait s'offrir. Quand je pense à tous ces boulots qu'elle avait pris, aux heures sup qu'elle s'était tapées, à ses chevilles bandées quand elle gonflait, à ses pourboires qu'elle mettait dans un pot avec l'étiquette « Pour les études d'Alan ». Oui, toujours et encore comme dans ces histoires débiles de pauvres devenus riches. Elle me disant et me répétant que je devais travailler dur, que les autres gosses pouvaient peut-être s'offrir le luxe de glander à l'école, mais que moi, pas question. Car elle pourrait bien mettre de côté tous ses pourboires jusqu'au jour du jugement dernier, ça ne suffirait jamais. Et finalement, il allait falloir demander des bourses et des prêts pour que je puisse aller à la fac. Et il fallait que j'aille à la fac. Il le fallait absolument, car c'était ma seule porte de sortie et la sienne. J'avais donc travaillé dur, vous pouvez me croire, car je n'étais pas aveugle. Je voyais bien qu'elle était beaucoup trop grosse. Je voyais bien qu'elle fumait comme un sapeur, son seul petit plaisir personnel. Son seul vice, si vous préférez ce point de vue. Et je savais qu'un jour, nos situations s'inverseraient et que ce serait moi qui prendrais soin d'elle. Avec des études supérieures et un bon boulot, peut-être pourrais-je y parvenir. Je voulais y parvenir. Je l'aimais. Elle avait un caractère de cochon et la dent dure. Le jour où on avait fait la queue pour le bolide et où je m'étais dégonflé n'avait pas été la seule fois où elle m'avait crié après et flanqué une gifle. Mais je l'aimais en dépit de cela. En partie, même, à cause de cela. Je l'aimais autant quand elle me frappait que lorsqu'elle m'embrassait. Comprenez-vous ? Moi, oui. Et c'est très bien. Je ne crois pas qu'on puisse résumer une vie, expliquer une famille. Or, nous étions une famille, elle et moi. La plus petite famille imaginable. Une petite famille, très unie, de deux personnes. Un secret partagé. J'aurais répondu que j'étais capable de faire tout pour elle si on m'avait posé la question. Et c'était exactement ce qu'on me demandait de faire. On me demandait de mourir pour elle ou de mourir à sa place, alors même qu'elle avait déjà vécu la moitié de sa vie et probablement beaucoup plus que la moitié. Moi, je commençais à peine la mienne. Alors, Al, qu'est-ce que t'en dis ? Le temps passe. Je ne peux pas prendre une décision pareille, répondis-je d'une voix étranglée. La lune voguait au-dessus de la route rapide et brillante. C'est dégueulasse de me demander ça.
Je sais.
Vous dites tous la même chose, crois-moi. Il baissa la voix.
Faut que j'ajoute quelque chose.
Si tu ne t'es pas décidé avant qu'on arrive aux premières maisons, je vous emporte tous les deux. Il fronça un instant les sourcils, puis retrouva le sourire, comme s'il venait de se rappeler qu'il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles dans ce qu'il venait de dire.
« Vous pourriez monter tous les deux à l'arrière et parler du bon vieux temps. Ce serait toujours ça.
Et on irait où ?» Il ne répondit pas. Il ne le savait peut-être pas. Les arbres se brouillaient en un flot d'encre noire. Les phares dévoraient la route et la route filait. J'avais 21 ans. Je n'étais pas un puceau, mais je n'avais été qu'une fois avec une fille, et comme j'étais saoul, je n'avais que de vagues souvenirs de la chose. Il y avait 1000 endroits que je désirais voir. Los Angeles, Tahiti, et pourquoi pas Luckenbach, au Texas. Et 1000 choses que je voulais faire. Ma mère avait 48 balais, et 48 balais, c'est vieux, bon Dieu de Dieu. Ce n'était pas ce que disait Mrs. McCurdy, mais Mrs. McCurdy était elle-même vieille. Ma mère avait fait pour moi tout ce qu'elle devait faire, travailler comme une forcenée et pris soin de moi. Mais avais-je choisi la vie qu'elle avait eue ? Elle avait 48 ans. Moi, j'en avais 21. J'avais, comme on dit, toute la vie devant moi. Mais était-ce ainsi qu'on jugeait les choses? Comment décider dans un cas pareil? Comment peut-on faire un tel choix? Les bois défilaient à toute allure. La lune tournait vers nous son œil brillant et mortel.
« Tu ferais bien de te grouiller, vieux !» reprit George Stobb.
« On va être à court de forêt !»
J'ouvris la bouche et essayai de parler. Il n'en sortit qu'une sorte de soupir sec.
« Tiens, t'as qu'à prendre ça !»
Il tendit une main derrière lui. Son t-shirt se souleva de nouveau. Et je vis, une fois de plus, j'aurais pu m'en passer, la ligne noire ponctuée de points de suture qui lui zébraient le ventre. Y avait-il encore des entrailles en dessous, ou rien que de la bourre imbibée de produits chimiques? Quand sa main reparut, elle tenait une canette de bière, sans doute l'une de celles qu'il avait achetées au magasin de la frontière lors de sa dernière balade.
« Je sais ce que ça fait. Le stress dessèche la bouche. Tiens, prends ça. »
Il me tendit la canette. Je la pris, tirai sur l'anneau et avalai plusieurs longues gorgées. La bière était fraîche et avait un goût amer dans ma gorge. Je n'en ai plus jamais bu depuis. Impossible d'avaler ça. C'est à peine si je peux supporter les pubs de bière à la télé. Devant nous, brillait une petite lumière jaune dans la nuit.
« Grouille-toi, Al. Tu vois, c'est la première maison, là-haut, sur la colline. Si tu as quelque chose à me dire, c'est maintenant ou jamais. »
La lumière disparut, puis revint. Mais il y en avait d'autres à présent. Des fenêtres. Derrière, il y avait des gens ordinaires en train de vaquer à des occupations ordinaires, de regarder la télé, de donner à manger au chat ou peut-être de se tirer la tige dans la salle de bain. Je repensais à ma mère et à moi debout dans la file d'attente, à Thrill Village, Jean et Alan Parker, une grosse femme avec de larges taches de transpiration sous les emmanchures de sa robe d'été et son petit garçon. Elle n'avait eu aucune envie de faire la queue. Stobb avait raison. Mais je lui avais cassé les pieds. Là aussi, il avait raison. Elle m'avait donné une claque. Mais elle avait fait la queue avec moi. Elle avait fait la queue avec moi je ne sais combien de fois, et je pouvais bien repasser tout ça dans ma tête, tous les arguments pour et contre, mais il n'était plus temps. « Prends-la, » dis-je alors que les lumières de la première maison fonçaient vers la Mustang. « Prends-la, prends ma mère, pas moi. » Je jetai la canette de bière au sol et m'enfouis le visage entre les mains. Il me toucha à cet instant. Je sentis sa main qui tripotait le devant de ma chemise et l'idée s'imposa brusquement à mon esprit, avec une évidence éclatante, que tout ceci n'avait été qu'une épreuve. J'avais échoué et il allait arracher mon cœur encore tout palpitant de ma poitrine, tel le djinn diabolique d'un conte arabe plein de cruauté. Je hurlai, puis je ne sentis plus ses doigts à croire qu'il venait de changer d'avis à la dernière seconde et son bras passa devant moi. Un instant, mon nez et ma gorge furent tellement pleins de son odeur de mort que j'eus la certitude d'être mort moi-même. Puis il y eut le cliquetis de la portière qui s'ouvrait. Une bouffée d'air frais entra dans la voiture et entraîna la puanteur avec elle. « Faites beau rêve, Al !» grogna-t-il dans le creux de mon oreille avant de me pousser. J'allais rouler dans l'obscurité venteuse de la nuit d'octobre. Les yeux fermés, la tête dans les mains, le corps tendu dans l'attente d'une chute à me briser les reins. Peut-être ai-je crié, mais je ne m'en souviens pas avec certitude. Il n'y eut aucun contact brutal avec le sol, et au bout d'un moment qui n'en finissait pas, je me rendis compte que j'étais déjà allongé dessus. Je le sentais sous moi. J'ouvris les yeux, mais les refermai presque aussitôt. L'éclat de la lune était aveuglant. Un élancement douloureux me traversa la tête et aboutit tout au fond de mon crâne, à hauteur de la nuque. Rien à voir avec la sensation pénible que l'on éprouve après avoir été soumis à une lumière trop vive. Je me rendis alors compte que j'avais les jambes et les fesses humides et froides. J'étais sur le sol, cependant, et c'était tout ce qui m'importait. Je me redressai sur les coudes et rouvris les yeux, plus prudemment cette fois. Je crois que je devais déjà savoir où je me trouvais et il me suffit d'un coup d'œil autour de moi pour le confirmer, dans le petit cimetière, en haut de la colline que franchissait Ridge Road. La lune me surplombait presque, à présent. D'une blancheur féroce, son disque était beaucoup plus petit que quelques instants auparavant. La brume était plus dense et s'étendait comme une couverture ouatée sur le cimetière. Quelques pierres tombales en dépassaient comme autant d'îlots. Je voulus me mettre debout, et un nouvel élancement douloureux me parcourut la nuque. J'y portai la main, et sentis que j'avais une bosse. Elle était aussi engluée d'un liquide poisseux. Je regardais ma main. À la lumière de la lune, les traînées de sang qui striaient ma paume paraissaient noires. Je parvins à me remettre debout à ma deuxième tentative, et restai ainsi un moment à vaciller sur place entre les tombes, de la brume jusqu'aux genoux. Je me tournai, vis l'ouverture dans le mur, puis la route de l'autre côté. Je ne distinguais pas mon sac, que recouvrait la brume, mais je savais qu'il était là. Il me suffisait de regarder la route par l'ornière gauche pour le retrouver. Il était même probable que je trébucherais dessus. À cela se résume donc mon histoire, bien ficelée avec un joli nœud. Je m'étais arrêté au sommet de cette colline afin de me reposer. J'étais entré dans le cimetière par curiosité, et alors que je reculais brusquement devant la tombe d'un certain George Staub, je m'étais bêtement emmêlé les pinceaux. Dans ma chute, je m'étais assommé contre une pierre tombale. Combien de temps étais-je resté inconscient ? Je n'étais pas assez malin pour pouvoir l'évaluer à la minute près en fonction de la hauteur de la lune, mais j'estimais avoir passé une bonne heure sur le carreau. Assez longtemps, en tout cas, pour avoir eu le temps de rêver d'une course en voiture avec un mort au volant. Quel mort, au fait ? George Staub, évidemment, le nom que j'avais déchiffré sur la pierre tombale juste avant de m'assommer pour le compte. Une conclusion des plus banales, pas vrai ? Seigneur, quel affreux cauchemar ai-je fait ? Et si en arrivant à Lewiston, je découvrais que ma mère était morte ? Juste un zeste de prémonition pendant la nuit, l'explication tenait. Le genre d'histoire que l'on aime à raconter au bout de quelques années, à la fin d'une soirée, et les gens hochent la tête, songeurs, la mine solennelle. Et vous trouverez toujours un prof sentencieux en veston de tweed avec du cuir au coude pour vous rappeler qu'il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que toute ta philosophie ne peut en rêver, Horatio. Et alors merde, dis-je à haute voix. La partie supérieure de la brume ondulait lentement, comme de la buée sur un miroir. Jamais je ne raconterai cette histoire. Jamais de toute ma vie. Même pas sur mon lit de mort.